Ben, on fait hop, 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 et puis voilà.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Je vais vous faire une chronique musicale. Alors, j'avais décidé, par légèreté d'esprit, de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes.
Je parlerai de la gaudrie.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors, à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actuel et lui. Bonjour Anne-Marie.
Et bonjour Guillaume.
Et oui, nous ne sommes que deux aujourd'hui. On voilà. Fait un petit coucou amical à Caro qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui.
Exactement.
Voilà, on pense fort à elle. Et
mais on l'écoutera quand même à la fin de l'émission, je
voilà,
crois.
Voilà, on vous proposera de réécouter sa chronique qui, justement, vous avez entendu des petits bouts dans ce générique de Caroline. Et bien, c'est cette chronique qu'elle avait faite dans Actuel et lui.
Sur ses plaisirs solitaires, c'est ça.
C'est ça, et sur la gaudriole. Donc voilà, on réécoutera cette chronique à la fin de cette émission. Voilà, une chronique qui était dans un Actuel et lui and Friends de l'an dernier. D'accord. Alors, quels sont nos deux autres sujets, Anne-Marie, tu vas parler de quoi?
Alors moi, je vais parler des murs qu'on détruit et qu'on construit. Et toi, Guillaume?
Eh bien moi, ce sera un hommage que je vous proposerai, mais je vous en dirai plus tout à l'heure.
Suspense.
Allez, on est parti, et on parle de murs, un peu de maçonnerie, Anne-Marie, ou plutôt...
Bon, on va dire ça comme ça, ça fait partie de la maçonnerie.
Allez.
Il y a 25 ans, la foule détruisait le mur de Berlin, le 9 novembre 1989, au soir, précisément. Depuis, d'autres murs ont été bâtis pour séparer les populations, toujours plus haut, toujours plus menaçant. Ces murs de la honte blessent et tuent sans que cela nous émeuve. Pour cette chronique, je vais m'appuyer sur le numéro spécial du Courrier international intitulé « 50 murs à abattre ». Je vous conseille vivement, en tout cas, de l'acheter et de le lire.
Il est sur la table avec les post-it, comme d'habitude.
Exactement. Et je m'appuie aussi sur l'enquête de Capital nommée « 25 ans après, les murs se dressent toujours ».
Bon, alors on va peut-être revenir sur le mur peut-être le plus célèbre, enfin au moins en tous les cas celui qui fait de l'actualité avec l'anniversaire de sa chute, le mur de Berlin.
Exactement. Alors, vestige de l'histoire, le mur de Berlin est devenu aujourd'hui un haut lieu touristique, à tel point que la journaliste Verena Meyer du Courrier international estime que le mur est à Berlin ce que la Tour Eiffel est à Paris ou le Colisée à Rome. Il y a quelques jours, le 9 novembre donc, les Berlinois ont commémoré sa chute. Quelques 8000 ballons lumineux ont été largués un par un au son de l'Ode à la joie de Beethoven. Donc, je vous le rappelle, c'est l'hymne officiel de l'Union européenne.
Je vous l'avais fait écouter, je vous rappelle, dans une interprétation de Nana Mouskouri.
Comment peut-on l'oublier, Guillaume ? En ligne sur 15 km, ces ballons ont symbolisé l'ancienne frontière qui séparait d'est en ouest le cœur de Berlin. Et justement, je vous propose un petit saut en arrière. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La République fédérale d'Allemagne, donc la RFA, est créée en 1949 dans la trizone constituée par la France, l'Angleterre et les États-Unis. La République démocratique allemande, la RDA, est quant à elle dans la zone occupée par les Soviétiques. En 1961, confrontés à une fuite massive des Allemands de l'Est vers l'Ouest, les autorités de la RDA entament, dans la nuit du 12 au 13 août, la construction d'un mur haut de 3,50 m et courant sur 155 km autour de Berlin-Ouest. La capitale allemande, séparée en deux, donc, va évoluer différemment, effectivement en fonction des richesses des Soviétiques et puis des Français, Américains... et des Anglais. La construction à l'ouest est notamment plus rapide qu'à l'est. À la fin de l'été 1989, la contestation se développe en RDA. Le 3 octobre, 20 000 personnes défilent à Leipzig. Venu célébrer à Berlin-Est le 40e anniversaire de la RDA, Mikhail Gorbatchev, donc, qui dirigea l'URSS entre 1985 et 1991, rejette toute idée de répression armée. Le mouvement s'amplifie dans tout le pays. Et donc, au soir du 9 novembre, le mur s'ouvre sous la pression de la foule. Et pour rappel, en 1990, Mikhail Gorbatchev reçoit le prix Nobel de la paix pour sa contribution à la fin de la guerre froide. Alors effectivement, si Caroline avait été là, peut-être qu'elle aurait pu nous rappeler ses souvenirs concernant la chute du mur de Berlin. C'est vrai que moi j'ai été pitchounette en 1989 et je pense que toi aussi Guillaume, petit, donc on n'a pas forcément des souvenirs. On sait qu'on on était là pour vivre ce moment historique, mais on n'a pas de souvenirs quelque part.
Bon alors, tu nous disais tout à l'heure qu'on construisait aussi des murs et donc il y avait des murs qui étaient toujours debout.
Oui, et alors c'est un chiffre qui est hallucinant, c'est que près de 30 barrières ont été dressées dans le monde depuis 1998, ce qui est énorme, sachant qu'on va le voir, c'est un chiffre qui évolue sans cesse. Il y a de nouvelles clôtures entre les États-Unis et le Mexique, entre la Grèce et la Turquie, l'Inde a barricadé ses frontières entre le Pakistan et le Bangladesh, Israël a construit un mur autour de la Palestine et vient de terminer une clôture sur sa frontière avec l'Égypte. L'homme se protège de l'autre, veut empêcher, donc grâce à ses murs, l'entrée de clandestins désespérés ou l'entrée de fondamentalistes, comme en Arabie Saoudite. Un mur de 900 km construit dès 2006, doté d'équipements électroniques, sépare l'Arabie Saoudite de l'Irak et donc entend lutter contre les milices chiites irakiennes et contre Daesh, donc le pouvoir islamique. Une raison invoquée également pour justifier le mur entre l'Iran et le Pakistan, commencé en 2007. La construction est toujours en cours. Pour l'heure, en tout cas, il s'étend, ce mur, sur 700 km. Ce mur doit lutter contre la criminalité et rétablir la sécurité dans la région. Enfin, voilà, c'est en tout cas les thèses qui sont avancées. Alors, donc il y en a beaucoup, des murs, comme le rappelle le titre du courrier international, 50 murs à abattre. Je ne vais pas tous vous les citer, ça ne sert à rien. Mais voilà, je vais juste en prendre quatre exemples. Alors, c'est surtout révélateur et c'est un peu choquant. C'est par exemple à Melilla. Donc, les blocs de béton et les barbelés qui isolent l'enclave espagnole de Melilla du territoire marocain sont les mêmes que ceux qui défiguraient jadis la capitale allemande. Melilla, c'est vraiment la frontière entre l'Afrique et l'Europe. Donc, effectivement, beaucoup de personnes désespérées tentent leur chance, parce qu'encore une fois, si ces personnes prennent autant de risques, c'est pas par envie, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Alors, il y a aussi une barrière qui est infranchissable, pour le coup, et c'est entre les deux Corées. 1 million de mines et autant de soldats. La frontière entre les deux Corées demeure la zone la plus militarisée au monde. Des clôtures à un no man's land de 4 km de large séparent les deux États depuis 1953.
Punaise, c'est énorme. 4 km de large, c'est énorme.
C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'on dit que la barrière est infranchissable.
On va maintenant au Moyen-Orient.
Exactement, on va en Cisjordanie et le mur de la Cisjordanie a coûté 2 milliards d'euros. Et vous allez voir, c'est pas le pire en milliards d'euros, parce qu'effectivement, c'est là aussi où c'est choquant, je trouve. Mais bon, après, c'est un point de vue très subjectif, mais on met des milliards sur la table pour construire des murs, alors qu'on pourrait peut-être mettre des milliards justement pour développer des pays pauvres et permettre aux personnes de rester chez elles et justement de ne pas partir dans d'autres pays. Bon, en tout cas, là, on est donc en Cisjordanie. Alors, officiellement, c'est pour des raisons de sécurité qu'Israël a entrepris la construction de cet ouvrage en 2002, donc c'est quand même assez récent. Sur une distance de 730 km, il sépare l'État hébreu de la Cisjordanie occupée. Depuis son édification, les attaques terroristes ont pratiquement cessé, mais le tracé de cet ouvrage, qui serpente au-delà de la frontière de 1967, a voulu à Israël une condamnation de la Cour internationale de justice. Et enfin, je voulais parler des États-Unis. Et alors là, c'est pour ça que...
Ils ont fait péter la banque.
Alors là, péter la banque, puisqu'on parle de 20 milliards de dollars juste pour la construction d'un mur, c'est hallucinant. Alors en 2006, les États-Unis ont reçu l'autorisation de réaliser une barrière entre eux et le Mexique, sauf que le budget donc, de 10 milliards de dollars a doublé. Et avec ses 1300 km de long, il aurait permis de réduire l'immigration mexicaine illégale d'un quart. Bon, là, toujours pareil, ce n'est pas nos chiffres.
Qu'est-ce qui leur a donné cette autorisation ?
Alors là, je t'avouerai que je ne sais pas. Est-ce que du coup, les Américains avec les Mexicains, je pense que c'était le pouvoir du Mexique qui effectivement a été d'accord, puisque de toute façon, ce qui est normal en même temps, le mur, il est sur les deux, sur les deux pays.
Alors, on va maintenant revenir un petit peu en arrière et tu vas nous parler des murs qui sont les plus anciens.
Oui, parce qu'on oublie...
Les vieux murs, vieilles pierres.
C'est vrai que quand tu disais tout à l'heure en introduction, on pense toujours au mur de Berlin, ce qui est tout à fait vrai. Et en même temps, l'homme du XXe siècle n'a rien inventé, puisque je vais vous parler de la plus grande construction humaine au monde. Oui. C'est sous la dynastie Qing que débute la construction de la Grande Muraille de Chine, vers 220 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'était il y a fort, fort longtemps, pour se protéger des invasions venues du Nord. Donc finalement, quelque part, notre philosophie n'a pas changé. Hein. C'est toujours, on construit des murs pour se protéger de l'autre. Alors à l'époque, 300 000 soldats et 500 000 paysans ont réalisé le premier tronçon. Au total, 10 millions d'ouvriers seraient morts sur cet ouvrage au fil des siècles. Et pour rappel, parce que ça je trouve quand même que c'est une information qui est importante de souligner, c'est que depuis 1987, la Grande Muraille est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà.
Ah, c'est-à-dire que c'est aussi un élément marquant du paysage.
Mais tout à fait. Non, mais juste pour dire que voilà, ce mur qui avait été créé, et puis surtout, il faut quand même rappeler, 10 millions d'ouvriers morts quand même. C'est énorme pour cette muraille. Elle est rentrée à l'UNESCO. Alors, ce qui peut être très bien, parce qu'effectivement, aujourd'hui, comme les vestiges du mur de Berlin, c'est un haut lieu touristique. Mais voilà, il ne faut pas oublier pourquoi cette muraille a été construite et par qui, surtout.
Mais on peut y gagner sa bravitude, hein, donc c'est important.
Petit clin d'œil à Ségolène.
C'est ça. On poursuit et là, on va à l'époque romaine.
Voilà. Alors, en 122 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien décide de bâtir un mur, lui aussi, pour défendre l'Angleterre contre les tribus calédoniennes habitantes de l'actuelle Écosse. Longue de 117 kilomètres, cette fortification aurait aussi servi de poste à l'Empire romain pour collecter des taxes à l'importation. Donc, vous voyez, finalement, tous ces murs datent d'il y a fort, fort longtemps et...
D'accord, alors quel est le mur le plus récent maintenant, maintenant qu'on a fait les vieilles pierres ?
Eh bien, il n'est pas encore construit, mais l'Ukraine a l'intention d'ériger un mur pour assurer la sécurité de sa frontière avec la Russie. Il s'agit de commencer par creuser une tranchée de 1500 km, puis de construire un rempart de 2300 km de long. Mais vous voyez, c'est toujours énorme en fait, hein, quand on parle d'un mur, évidemment, c'est toujours en... là, c'est en milliers de kilomètres. Bon, tout à l'heure, on parlait en centaines de kilomètres, mais c'est toujours des fortifications complètement gigantesques, finalement.
Oui, et puis ces murs, ils étaient en pierre, et puis maintenant, ils sont plus... Enfin, pas seulement qu'en pierre, quoi.
Et non, pas tout à fait, effectivement. Alors, pour contrôler les frontières, on a besoin d'inventer des systèmes qui infligent des blessures physiques à ceux qui essayent de les déjouer. C'est pour leur faire peur, c'est aussi pour les punir. Et je vais vous lire en fait deux extraits du courrier international, parce que comme ça, là, il n'y a pas de commentaires, tout est dit dans ces quelques lignes. Donc je cite un extrait donc, d'un article donc, du courrier international. De nouveaux barbelés hérissés de lames tranchantes surmontent les clôtures qui entourent Melilla, l'un des deux territoires espagnols avec la Ciutat, située sur la côte méditerranée d'Afrique du Nord. Ces enclaves possèdent les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec l'Afrique et aimantent les migrants prêts à tout pour se rendre en Europe. L'Espagne entretient depuis longtemps un système de clôture high-tech pour empêcher les candidats à l'immigration d'entrer, mais elle avait enlevé les barbelés du sommet des clôtures de Melilla en 2007 parce qu'ils infligeaient des blessures graves à ceux qui prenaient le risque de grimper. En novembre dernier, en réponse à une recrudescence des arrivées des migrants, les autorités espagnoles ont remis les barbelés. Cette décision a provoqué la colère des militants des droits de l'homme et de responsables religieux dans toute l'Europe. Donc on a effectivement parfois des murs et au-dessus, nous avons des barbelés. Et effectivement, après, quand on enjambe, on comprend bien qu'effectivement, on peut se blesser et on peut se faire très mal.
Ouais, c'est effectivement assez repoussant.
Bah, oui, voilà, c'est pour nous c'est choquant sens, voilà. et en même temps, voilà, l'effet c'est qu'il y a quand même toujours des personnes qui tentent leur chance. Et alors voilà, justement, je voulais aussi vous citer un autre extrait d'une jeune fille qui a voulu tenter sa chance. Et on va comprendre à quel point ce sont vraiment des murs de la honte. Alors, en janvier 2011, la clôture entre l'Inde et le Bangladesh a déchiré la chair de Felani Khatoum, une jeune indienne de 15 ans. Alors, le père de cette gamine avait arrangé son mariage avec son cousin du Bangladesh. Le matin des noces, le père a payé deux passeurs de bétail pour qu'il l'aide à escalader la clôture avec sa fille. Une fois au Bangladesh, il comptait marcher jusqu'au village où le futur époux les attendait. Donc, Felani, la jeune fille de 15 ans, a grimpé sur la clôture avec une échelle en bambou fournie par les passeurs, mais sa jupe s'est accrochée au barbelé. Elle a paniqué et s'est mise à crier. Le bruit a alerté les soldats en poste à la frontière. Ils ont tiré en direction de la clôture. Une balle a percé la poitrine de Felani et elle s'est affaissée sur les barbelés, blessée à mort. Elle a demandé de l'eau pendant une demi-heure avant de finir, par se vider de son sang. Elle est restée pendue la tête en bas, maintenue en place par les barbelés, jusqu'à ce que le soleil du matin dissipe le brouillard et que les soldats la décrochent. Ils l'ont suspendue par les mains et les pieds à un bâton en bambou et l'ont emportée comme un animal destiné à la boucherie. Voilà.
Ouais. Bon. Sur ce, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai bah que c'est pas gay, mais c'est en même temps, c'est le
témoignage
quotidien.
De l'histoire.
Voilà, enfin, c'est le quotidien. Et puis, on l'oublie forcément parce que ça ne nous touche pas. Enfin, ça ne nous touche pas personnellement. Voilà. Nous, nos frontières. Mais j'aurais dû aussi le dire, mais c'est vrai que dans un monde où finalement, aujourd'hui, on prône la mondialisation, on voit bien qu'il y a des pays qui se ferment complètement. Et voilà, il faut aussi en parler de ces personnes qui meurent et qui ne sont pas du tout prises en compte, prises en charge. Donc voilà, il fallait quand même en parler.
Oui, mais c'était un sujet tout à fait au cœur de notre ligne éditoriale dans Actuel et lui.
Oui, bah, j'en suis contente.
Voilà, un peu de sérieux, il n'y a pas que des sujets futiles. Le sujet futile arrive bientôt, donc ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Alors, je voulais qu'on parle d'un autre mur. Là, c'est plutôt un mur mental. Et donc, en fait, écoutez la chanson des Pink Floyd, The Wall.
C'est parti.
Teacher, leave them kids alone.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Bien, nous sommes de retour dans cette deuxième partie d'Actuel et lui. Donc, nous retrouvons Guillaume. Et Guillaume, je crois que tu voulais rendre hommage à quelqu'un.
Oui, alors il y a quelques jours, nous rendions un hommage national à l'occasion du 11 novembre avec la commémoration de l'armistice de 1918. Mais je vous propose un autre tour de rendre un hommage, certes beaucoup plus léger et beaucoup moins important, mais un hommage malgré tout. Alors, je vais te faire deviner, Anne-Marie, qui est cette personne. Alors, je vais faire un peu à la Julien Lepers. Hein.
Mais là, j'ai la pression, du coup.
Ah oui, oui, normalement, vous étiez deux, mais bon. Mm. Ouais. Alors, c'est une chanteuse de variété française, née le 22 juillet 1946 à Avignon, dans le Vaucluse, vedette internationale, présente sur toutes les scènes du monde, notamment aux États-Unis, en Russie, au Japon, dans l'Europe entière, en Chine, au Brésil, au Mexique, mais également au Canada et en Scandinavie. Une des plus grandes figures de la scène hexagonale et mondiale, avec près de 23 millions de disques écoulés en France et plus de 133 millions d'albums et 55 millions de singles vendus à travers le monde. Elle a enregistré plus de 1200 titres et chanté dans 11 langues, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en russe, en finnois, en japonais, en chinois, en catalan et en occitan. Elle a également enregistré de nombreux duos avec de nombreuses personnalités de la scène mondiale comme Paul Anka, Patrick Duffy, Tom Jones, Sandy Williams, Placido Domingo, Dean Martin ou bien encore avec Julio Iglesias. Mais alors qui est-ce, Anne-Marie ?
Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de chanteuses françaises qui ont réussi l'exploit de vendre quand même 133 millions d'albums dans le monde. Je trouve ça juste énorme. Donc je pense que ça peut être Mireille Mathieu.
Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé. On ne s'aime plus. J'étais sûre de moi. Je vivais tranquille. Et ta main dans ma main. Croiser les doigts et tous les tricheurs de la grande ville ne me faisaient pas peur quand tu étais là. Mais les dés sont jetés, père, un père rouge ou noir.
Et voilà, bravo Anne-Marie, tu as gagné. Oui, vous me l'aviez demandé. Et vous savez que c'est avec un grand plaisir que
on t'a rien demandé, Kiko.
Ah si, si. Vous réécouterez l'émission la dernière fois où je vous ai parlé des sorties, etc. Et vous m'avez dit, Mireille Mathieu.
Non, c'est vrai qu'à l'occasion de ta chronique sur les sorties musicales, tu aurais pu dire qu'effectivement Mireille Mathieu sortait un album collector, je crois. Mais après, on t'a pas réclamé une chronique spéciale Mireille Mathieu.
Mais moi, bon. J'avais compris ça. Mais bon, donc, alors pourquoi vous parlez.
Tiens, on va vieillir comme ça à l'âge de nos auditeurs.
Mais alors pourquoi parler de Mireille Mathieu aujourd'hui ? Eh bien parce que ce vendredi 24 octobre était une date particulière pour l'Avignonnaise qui fêtait ses 50 ans de carrière. Et oui, il y a quelques mois près. En effet, après avoir remporté un concours de chant organisé par la mairie d'Avignon en juin 1964, elle est repérée l'année suivante dans un télécrochet et rapidement, le succès s'empare de la talentueuse chanteuse au vibrato mémorable, si bien qu'elle s'offrira son premier Olympia en décembre 65 à 19 ans à peine. Donc c'est quand même...
Mais là aussi, c'est vrai que je pense que Mireille Mathieu, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, tu vas quand même nous parler d'exploits. Encore une fois, elle a vendu 133 millions d'albums et puis être sur la scène de l'Olympia à 19 ans, c'est juste incroyable quand même.
C'est ça. Et c'est sans la moindre hésitation donc, que Mireille Mathieu a donc choisi l'Olympia pour célébrer cet anniversaire que peu d'artistes ont quand même la chance de pouvoir atteindre. Hein. Donc l'éternelle demoiselle d'Avignon a donc pris résidence au sein de la mythique salle parisienne pour 3 soirs. Et pour fêter ses 50 ans de carrière, Mireille Mathieu a offert à son public un spectacle grandiose, reprenant bien entendu ses plus grands succès avec enthousiasme. Mais Mireille Mathieu a également chanté devant sa maman, Marcel-Sophie Poirier, à 92 ans. Et un sublime gâteau d'anniversaire a été à la hauteur de l'événement, bien sûr, comme c'est logique pour 50 ans de carrière. Alors une dizaine de concerts reviendront boucler cette mini tournée anniversaire avec une escale très attendue dans sa ville natale d'Avignon, bien entendu. Alors, je vous connais, et surtout Anne-Marie, hein, qui suit quand même pour Actuel et lui toutes les thématiques de produits de beauté, de chirurgie esthétique, etc.
Alors, je n'étais pas au courant, Guillaume, mais je vais m'y mettre, alors.
Et donc, vous allez me poser la question, quel est le secret de longévité de Mireille Mathieu ? On peut se poser la question.
Oui, voilà. Oui.
Alors, beaucoup se posent cette question, et la star donne quelques éléments de réponse à purepeople.com. Elle commence en blaguant sur un éventuel coup de bistouri. Pas la chirurgie, je vous rassure, rigole-t-elle. Je mène une vie très saine qui exclut toute exposition au soleil et la consommation d'alcool. On ne fume jamais en ma présence et je mange uniquement bio. Alors, elle est aussi très croyante, mais c'est vrai qu'on l'imagine mal se ruer sur les bouteilles de vodka dans ses loges, dans ses concerts en Russie. Bon, voilà. Alors, son secret se situe également dans sa coupe de cheveux. Parfois moquée, mais inchangée ou presque depuis ses débuts dans le jeu de la chance en 1965. Et regardez les magazines, ma coupe est aujourd'hui à la mode. Il y a quelques années, j'avais fait une petite entorse à mon look habituel en optant pour une coupe à la Louise Brooks. J'aimais bien, mais le public, lui, n'appréciait pas. Alors j'ai reculé, le public est roi, assure la chanteuse.
Là où elle est quand même un petit peu de mauvaise foi, c'est quand elle dit qu'effectivement, regardez les magazines, ma coupe est aujourd'hui à la mode. Mais on sait très bien que la mode, c'est cyclique. Enfin, tout ce qui est vieillot aujourd'hui, ça sera effectivement à la mode demain.
Et voilà, mais ce qu'elle faisait référence notamment à Lady Gaga, qui récemment s'est présentée à Manchester avec la même coupe de cheveux.
Je sais pas si c'est vraiment bien, mais bon.
Ben voilà, bon. Bon alors, comme
mais en tout cas, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle ne change pas.
Ah, ça, elle ne change pas.
Alors après, elle a peut-être une bonne maquilleuse, une bonne coiffeuse aussi, mais...
Alors, comme c'est un hommage, nous allons, si vous voulez bien, revenir un petit peu sur sa biographie et en profiter pour écouter quelques chansons. Alors, selon Wikipédia, Mireille Mathieu est la fille d'un maçon, tailleur de pierre, Roger Mathieu, et l'aînée de 14 enfants. Elle commence à travailler dans une usine d'enveloppes à l'âge de 14 ans pour aider sa famille. Elle découvre la chanson dès son enfance avec son père, qui est aussi un chanteur baryton, amateur d'opéra et de grande voix. Et c'est la découverte d'Édith Piaf qui lui montre la voix. Elle décide de devenir chanteuse et elle se présente donc en 1962 au concours « On chante dans mon quartier ». Organisée par la mairie d'Avignon. Elle terminera deuxième, juste derrière Michel Thor, et finira par remporter ce concours en 1964 avec cette chanson qu'on écoute.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Alors voilà, c'est La vie en rose qui est encore aujourd'hui sa chanson fétiche et qu'elle chante lors de tous ses concerts. L'adjoint au maire d'Avignon, Raoul Colombe, la soutient en la faisant participer à de nombreux galas locaux et l'inscrit au jeu de la chance, le télécrochet de l'émission Télé Dimanche de Raymond Marcillac. Lors d'un gala d'Enrico Macias, elle est remarquée par Johnny Stark, son futur impresario. Et le 21 novembre 1965, date de sa première apparition à la télévision, lors du télécrochet du Jeu de la Chance. Le public découvre donc Mireille Mathieu. Johnny Stark lui propose alors un contrat. Et après un premier Olympia en décembre 1965, en levée de rideau de Dionne Warwick et de Sacha Distel, elle s'y produit en vedette dès 1966, accompagnée par Paul Mauriat, interprétant notamment ses premiers succès. Le succès de Mireille Mathieu en France dépasse les frontières et dès 1966, elle participe à l'émission d'Ed Sullivan Show aux États-Unis. Et en 1978, on continue un petit peu sa vie, son buste sert de modèle pour la représentation de Marianne. Et son image de chanteuse à voix se confirme dès cette époque avec l'interprétation de cette chanson « On écoute ». Donc voilà, Paris en colère, cette chanson écrite par Maurice Vidalin sur une musique composée par Maurice Jarre pour le film de René Clément, Paris brûle-t-il. Cette chanson est dès sa sortie un immense succès et reste associée symboliquement à la libération de Paris. En 2004, à l'initiative du maire de Paris Bertrand Delanoë, elle la chante devant l'hôtel de ville, en présence du président Jacques Chirac pour la célébration du 60e anniversaire de la libération de Paris. Elle est même bissée à cette occasion, elle doit donc la rechanter une deuxième fois. En 1967, c'est l'adaptation en français du succès The Last Waltz, sous le titre La Dernière Valse, qui lui ouvre les portes des charts du Royaume-Uni. Et elle participe pour la première fois à la Royal Performance devant la reine Elisabeth II. Elle s'y produira deux autres fois au cours de sa carrière. Donc c'est ce concert privé finalement devant la reine. Elle participe aussi à la fin des années 60 à de nombreux spectacles au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Après de nombreux succès en français, Mireille Mathieu se fait connaître aussi du public allemand en 1969 avec Hinter den Kulissen von Paris. Et durant les années 1970, ses succès dans la langue de Goethe vont se succéder. Et quelques-uns de ses succès allemands sont également des succès en France et dans d'autres pays, et notamment le fameux « Mille colombes ». Voilà, qu'elle a chanté aussi au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy sur la place de la Concorde. Donc on écoute les mille colombes. Hein.
Yeah.
Alors qu'elle connaît de nombreux succès populaires, elle élargit son répertoire à différents styles de chansons, avec des collaborations notamment avec Alice Donna et Serge Lama. En 1986, après 13 ans d'absence, elle effectue un retour sur scène à Paris, sur la scène du Palais des Congrès, pour ses 20 ans de carrière, et durant un mois devant 110 000 personnes. Voilà, quand même.
On sait pourquoi elle a été absente aussi longtemps ?
Non, a priori, c'est plus... voilà, ça a été un peu une absence aussi... française, parce qu'on voit Mille Colombes, c'était en 1977, donc c'était plus une absence du territoire français.
D'accord, voilà. Oui, elle a continué à chanter ailleurs, mais...
Voilà. Voilà, à la fin des années 80, elle est marquée par une tournée en Chine, avec notamment en 1986, la tournée en Chine en 1986, et une autre en URSS en 1987, au cours de laquelle elle est accompagnée par les chœurs de l'Armée Rouge. Et en 1986, elle chante également la chanson officielle de la France pour le centenaire de la Statue de la Liberté en duo avec Andy Williams à New York devant les présidents Reagan et Mitterrand. Dans les années 90, en 1993, l'album Mireille Mathieu chante Piaf atteint 100 000 exemplaires. Donc je vous rappelle que c'est Piaf qui l'a décidé à chanter, donc c'était aussi un hommage qu'elle avait fait à ce moment-là.
Et finalement, c'est peu. Oui. 100 000 exemplaires.
Bah aujourd'hui, c'est beaucoup. Hein.
C'est beaucoup, mais à l'époque, c'est pas du tout. C'est peu. Hein.
Voilà. Le 14 novembre 1996, elle donne un concert unique sur la scène de l'Universal Amphithéâtre de Los Angeles. Et la critique américaine la compare alors à Edith Piaf et à Judy Garland. Donc quand même deux belles références. En 2005, le 9 mai, elle se produit à l'invitation du président Vladimir Poutine sur la Place Rouge à Moscou, dans le cadre des cérémonies de célébration des 60 ans de la victoire des Alliés sur l'Allemagne. Elle fête aussi ses 40 ans de carrière à l'Olympia du 18 au 27 novembre. Et le jeudi 24 novembre, elle reçoit des mains du directeur de l'Olympia et au nom de la profession un disque de rubis, une catégorie honorifique créée uniquement pour elle et récompensant 122 millions de disques vendus dans le monde depuis ses débuts. Donc voilà, c'était en 2005, voilà. Alors, il y a, effectivement, je vous ai parlé de la première visite à Vladimir Poutine, mais en novembre 2008, elle chante au Palais du Kremlin, cette fois-ci devant Vladimir Poutine, mais aussi devant le colonel Kadhafi. Donc c'est le côté un petit peu moins sympathique hein, de Mireille Mathieu. En septembre 2009, elle est la vedette invitée au Festival des musiques militaires de Moscou, et elle chante quand même deux soirs de suite devant plus de 20 000 personnes sur la Place Rouge. C'est quand même assez énorme et elle sera aussi invitée les années suivantes. En novembre 2010, elle proposera un concert jubilé à Moscou pour fêter ses 45 ans de carrière. En septembre 2012, Mireille Mathieu sort là aussi un album de chansons, de reprises de chansons d'Edith Piaf à l'occasion de la disparition de la chanteuse qui l'a inspirée. Et en septembre 2012, il y a eu l'épisode Pussy Riot. Lors d'une interview à la télévision russe, alors je vous rappelle les Pussy Riot, hein, c'est ces militantes féministes, un peu comme les Femen aujourd'hui, voilà, qui passent justement par des actions un peu coup de poing et notamment en se mettant nu, hein,
voilà,
notamment.
Coup de poing et seins nus.
Voilà. Et donc, notamment, ça avait été fait dans une église, voilà. Et donc, Mireille Mathieu déclarait à ce moment-là qu'elles avaient commis un sacrilège. Hein, c'était son côté très croyante hein, que j'évoquais tout à l'heure. Mais elle ajoutait qu'en tant que femme artiste et chrétienne, elle demandait l'indulgence pour ses trois jeunes filles. Et cette deuxième phrase, d'abord coupée par la télévision russe, a donné lieu à une grande polémique en France, notamment avec le Petit Journal, ce qui a fait naître une certaine des relations un peu tendues entre le Petit Journal et Mireille Mathieu, et mais également avec Laurent Ruquier qui avait un peu profité de la bonne blague à ce moment-là. Voilà. Et puis donc en 2014, elle fête ses 50 ans de carrière. Voilà, et donc pour terminer cette chronique, je vous...
Alors juste, attends, Guillaume, je voulais te demander, tu nous as dit effectivement qu'elle chantait, alors donc en français ça va de soi, en allemand, en anglais, en espagnol, en russe, en japonais, etc. Elle chante, mais est-ce qu'elle sait parler toutes ces langues? Elle est polyglotte ou...
Non, je ne crois pas. Non. Je crois qu'elle parle, enfin voilà, qu'elle a simplement transcrit ses chansons dans la langue, et après voilà, c'est de la phonétique et c'est... voilà, non, je crois que sinon ça serait un petit peu dur d'arriver à... Bon, je pense qu'elle a des Elle a ces langues-là.
Elle parlait le russe, puisque c'est vrai qu'elle y va souvent.
L'Allemagne aussi, où elle a été quand même très, très, où elle a été très, très présente. C'est vrai que sa carrière ces dernières années s'est effectivement concentrée sur la Russie et l'Allemagne, finalement, presque plus que.
C'est vrai qu'on ne la voit pas trop. Enfin, là, on l'a vu parce qu'effectivement, tu nous le disais, c'était son 50e anniversaire de carrière, mais sinon, c'est vrai qu'on ne la voit plus trop, quoi.
C'est-à-dire que ça donne un peu l'impression d'être ringard, hein, Mireille Mathieu, mais c'est quand même aussi aujourd'hui une des ambassadrices de la culture française, qu'on le veuille ou non, dans le monde. Et donc c'était l'occasion de profiter de ses 50 ans pour faire un petit tour d'horizon de cette carrière et puis d'écouter quelques chansons, parce qu'il y a quand même des moments, on en a entendu quelques-unes qui sont qu'on connaît tous.
Juste une petite dernière question, c'est une vieille fille ?
Ah ça, j'en sais rien, j'avoue que je n'ai pas tout expertisé de ce côté-là.
Oh, Guillaume ! Non, mais c'est vrai que du coup, comme elle est toujours sur scène, un petit peu à droite et à gauche, je ne sais pas. Moi, je la verrais bien une vieille fille, mais bon.
Mais peut-être, je ne sais pas, je t'avoue que je n'ai pas d'informations sur cette question, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Et donc, pour terminer, je vous propose d'écouter une chanson avec une femme amoureuse, c'est au moins ça pour Mireille Mathieu.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bien, et bien après cette magnifique chanson.
Anne-Marie, es-tu une femme amoureuse?
Je suis une femme amoureuse. Je te poserai pas la question, Guillaume. Es-tu une femme amoureuse?
Non, je ne suis pas une femme amoureuse.
On aurait pu poser cette question à Caroline si elle avait été là. Donc, bon, si vous nous avez entendu depuis le départ, on vous a dit que Caroline n'était pas là. Mais on va quand même diffuser.
Mais nous, on va vous prouver que Caroline est une femme amoureuse. Certes, voilà, vous allez voir de Laurent Delahousse.
Ah, bah c'est son mari qui va être content.
Ben oui, oui, hein? Non, mais voilà. Donc voilà, on va vous proposer de rediffuser cette émission. Enfin, cet extrait d'une émission d'Actuel et lui and Friends où Caroline effectivement nous avait parlé de ces justement de ces petits plaisirs solitaires devant la télévision le soir. Donc voilà, on vous propose de l'écouter et voilà et on se retrouve suite après pour la fin de l'émission.
Alors je vais vous faire un petit aveu du coup obligé. Je manquais un peu d'inspiration. J'ai tourné ça depuis l'invitation. De quoi vais-je parler? Bon, j'avais un peu pensé à l'actu du moment, au moment de l'invitation, une actu à la tête de l'État, et puis finalement on en a tellement dit, tellement vu, que je me suis dit, en plus pour une diffusion un peu décalée, que ça allait vraiment être du réchauffé.
À moins que tu aies un scoop.
Ben, je sais pas, elle aura peut-être accouché d'ici là, mais bon, dans le doute, j'ai préféré,
ça fait pas 3 semaines, hein.
J'ai préféré pas m'y lancer, donc voilà. Alors j'avais décidé, par légèreté d'esprit, de vous parler de mes petits plaisirs solitaires du soir. Eh oui, je vois le regard d'Anne-Marie et d'Aurélie s'allumer. Les coquines. Et puis aux infos de ce matin, un sujet bien plus sérieux, un sujet très actuel, et lui finalement, est venu à mes oreilles. Alors là, gros dilemme, que faire, que dire? Alors, ne montez pas le son, pour vous en mettre plein les oreilles, envoyeur éternel, je vous propose donc d'aborder plutôt le lourd et le solide. Et puis, si vous me suppliez qu'il reste un peu de temps, je vous parlerai de la gaudriole. Avec 10 minutes à tenir, je ne peux qu'espérer que vous allez me supplier. Alors, pour démarrer, une petite devinette. Est-ce que les noms de Véronique Besse, Isabelle Le Callennec, Claudine Schmitt et Véronique Louvazic vous disent quelque chose?
Joker.
C'était pas les Claudettes?
C'était pas les Claudettes.
C'est bien tenté quand même. Hein.
Alors ceux qui auront écouté une excellente radio concurrente ce matin sont un peu avantagés, mais visiblement ici on n'écoute que 48 FM, voilà. Et c'est très bien.
On est fidèles.
Alors je vais rajouter un nom à ces quatre premiers, celui d'Hervé Mariton. Cela vous donne-t-il un indice?
Oui, peut-être l'UMP.
Alors, ça chauffe, ça chauffe. Et alors, à ces 5 noms, on pourrait en rajouter 14 autres pour être totalement complet. Vous ne voyez toujours pas?
Non. 5 et 14, 19.
Bon, on parle politique.
Alors, ce sont les 19 députés UMP et apparentés qui ont proposé un amendement contre le déremboursement de l'IVG il y a 2 jours. Une proposition que Najat Vallaud-Belkacem, ministre aux droits des femmes et porte-parole du gouvernement, a jugée rétrograde et qui a même gêné au sein du groupe de la droite parlementaire.
Bah, disons que le FN avait aussi prenait cette explication que voilà, il fallait plus rembourser les IVG puisque
tout à fait,
finalement
grand-mère d'Orange,
il y avait pas besoin.
Monsieur Bompard avait fait toute une tirade là-dessus, effectivement. Alors bien sûr, un amendement proposé par 19 députés, ça peut paraître un peu anecdotique, mais je ne crois pas que ça le soit vraiment à l'heure où l'Espagne entend revenir sur ce droit que moi j'estime fondamental pour les femmes. Et à quelques mois de la sortie du débat houleux sur le mariage pour tous, parce que c'est un petit peu les mêmes protagonistes qu'on retrouve là. Hein. Hervé Mariton était une des têtes de liste de toutes ces manifestations contre le mariage pour tous. Alors, je vous rappelle qu'on est à 1 an du 40e anniversaire de la loi Veil. Hein, c'est en 1975 que Simone Veil faisait adopter par l'Assemblée sa loi dépénalisant l'avortement en France. Voilà, près de 40 ans plus tard, donc, le texte continue de connaître des modifications visant à renforcer ce droit. Ainsi, le vote, il y a donc quelques heures à l'Assemblée nationale, de la disposition du gouvernement supprimant la notion de détresse de la loi Veil. Hein, l'opposition s'est donc élevée contre ce projet de loi visant à remplacer la justification d'un avortement par une femme, je cite, que son état place dans une situation de détresse, par, je cite toujours, qui ne veut pas poursuivre une grossesse. Une avancée, me semble-t-il, essentielle. Alors, un petit retour historique sur ce droit à l'IVG. 1810, le Code civil de Napoléon instaure le crime d'avortement. Hein, c'est quand même pas si vieux. Les femmes ayant volontairement mis fin à leur grossesse risquent la prison, ainsi que ceux les ayant aidés à la démarche. Les médecins et les pharmaciens qui auraient participé à un avortement sont passibles de travaux forcés à l'époque.
Ah oui.
En décembre 1967, on fait un petit bond en avant, la loi Neuwirth qui autorise la contraception est adoptée à l'Assemblée. En avril 1971, le Nouvel Observateur publie dans ses pages ce qui sera surnommé le Manifeste des 343 salopes, rédigé par Simone de Beauvoir, dans lequel 343 femmes demandent la dépénalisation de l'avortement. Il est notamment signé par Gisèle Halimi, Catherine Deneuve et Jeanne Moreau. Octobre-novembre 1972, le procès de Bobigny défraie la chronique. Marie-Claire, qui a avorté à 16 ans après un viol, est poursuivie, ainsi que sa mère et trois femmes qui l'avaient aidée. Défendue par l'avocate Gisèle Halimi, la jeune fille est acquittée. Un grand pas à ce moment-là pour les féministes, dont nous devrions tous être. Le 17 janvier 1975, donc, l'Assemblée nationale adopte la loi dite Veil après des débats houleux. La loi permet de légaliser et d'encadrer l'avortement. L'IVG peut être pratiquée par un médecin à la demande de la femme enceinte avant la fin de la 10e semaine de grossesse. Alors, je vais terminer sur ce sujet en vous disant que depuis deux jours, donc depuis que cet amendement a été proposé par les 19 députés UMP, on peut trouver la liste des 19 noms facilement sur Internet. Il n'y en a aucun de la région, je m'en réjouis. Des journalistes du magazine Elle ont posté sur Twitter des messages siglés « IVG, mon corps, mon droit » et depuis circulent sur le web photos et vidéos de personnes, hommes et femmes, j'insiste bien, défendant ce slogan. Le slogan inscrit sur toute partie du corps, c'est assez sympa. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le mouvement. Je pense que je vais le faire dès ce soir avec ma fille et je pense que mon mec à moi voudra bien participer.
C'est une très bonne idée, ça. Je pense qu'on va tous y participer.
Voilà, ben on peut faire ça à la fin de l'émission.
C'est gay comme chronique. Hein.
Bonjour Ludo.
Bonjour, excusez-moi.
Dans Rituel et lui, il y a du sérieux, il y a du moins sérieux. Et c'est important d'avoir ces différents sujets. Voilà.
Alors voilà, ben j'en ai fini donc avec le lourd de ma chronique. Et donc, est-ce que la frivolité vous intéresse un peu?
Oui, allez, on a encore un peu de temps pour la frivolité.
Tu nous prends par les sentiments.
Alors donc, au départ, j'avais évoqué l'idée de parler avec vous de deux hommes qui remplissent mes soirées, donc deux BCBG, beaucoup belle gueule, hein, bien sûr, les filles. Et oui, pourquoi se priver? Surtout qu'on peut, en plus, avec ces deux-là, remplacer le beaucu par beau cerveau, ce qui ne gâche rien, quand même.
Sinon, jamais 203. Hein.
Voilà, ben ouais, je pense que vous allez me trouver le troisième nom, il n'y a pas de souci. Alors, je veux parler de qui? De qui? Un petit indice, Guillaume?
Guédré.
Oh, elle est forte.
Alors, c'est très rigolo, avec Caroline, on a choisi la même artiste.
Moi, je dirais Frédéric Lopez.
Allez, Frédéric Lopez, c'est le premier. Et en début de soirée, je démarre avec Laurent Delahousse, Le Week-end. Alors, on dit d'eux que ce sont des gendres idéales. Alors, moi, je réfute complètement l'idée. Pas question de les laisser à ma fille. En plus, elle les trouverait certainement très vieux et très ringards. Donc, je les garde pour moi. Je veux bien les partager. Ouais, les copines.
Ça marche, les cougars. Hein.
Ouais, mais enfin, vraiment, deux mecs. Moi, je rêve d'être invitée dans la parenthèse inattendue et d'aller caresser les cheveux de Laurent Delahousse à la fin du JT.
Le message est lancé.
Voilà, c'est quand
Fred,
tu veux.
Si tu nous écoutes.
Je veux bien aller ramer pour venir au moulin. Alors,
mais je trouve quand même que Frédéric, là, il a pris un petit coup, non? Un petit coup de vieux. Non?
Justement, Anne-Marie.
Justement, qui
vous allez vous
bien.
Fâcher, je crois. Non, enfin, juste comme ça, entre parenthèses, je l'ai rencontré, Frédéric. Hein. Oh, on était sur le même canapé.
Une
fois à Paris.
Comment? Et je vous dis que ça va être très chaud, cette émission.
On était juste assis, hein, mais j'étais assise à côté de Frédéric Lopez, et ça, je suis très fière.
Les gants de boxe vont pas tarder à sortir. Là.
C'était dans une partouze.
Non, c'était pour le travail, je regrette.
C'est vrai que c'est une belle émission, cette parenthèse inattendue. C'est...
Ouais, alors que ce soit
et puis, bon, bien sûr,
rendez-vous en terre inconnue aussi, ou la parenthèse inattendue, moi, je trouve que ce Frédéric Lopez a cette capacité de mettre les gens en situation de parler, en confiance, et moi, c'est tard et chaque fois je me dis allez, je vais pas jusqu'au bout parce que demain j'y arriverai pas. Puis finalement, j'y vais quand même. Et c'est vraiment un beau moment de la télévision. Et voilà, donc je voulais signaler ça et dire que ce sont des petites régalades du soir.
Exactement.
Bien, mais merci pour ces régalades, ces deux hommes qui habitent tes soirées du week-end et de la semaine.
Je crois que mon mari n'écoutera pas le 13 février, donc je suis ravie.
Il y a quand même 3 rediffusions, hein, faut faire attention.
Plus le podcast pour qu'on devienne l'émission numéro 1 du podcast sur 48FM.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Voilà, une émission un peu particulière, mais bon, voilà, c'est pas bien grave. On vous souhaite
c'est
une.
C'est passé vite.
Ben oui, oui, ben oui, forcément. Voilà.
Alors, non, parce que les sujets étaient intéressants.
C'est ça, bien sûr, évidemment, évidemment. Alors, bah écoutez, on va vous souhaiter une bonne journée sur 48FM. On vous propose toujours de nous réécouter le mardi à 18h11 et le jeudi à 12h30. Soyez au rendez-vous. Vous pouvez également nous écouter sur Internet, hein, sur 48FM.org. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous aimez, si vous détestez nos chroniques.
Si vous adorez.
Voilà, et en fonction, on choisira peut-être d'autres sujets dans nos
thèmes. Tu vas voir qu'ils vont tous nous redemander après bah des bio sur Annie Cordy.
Michel Thor.
Yves Atterner.
Oui, tout ça.
Toi, tu vas avoir du boulot, Guillaume.
Je vais avoir du boulot, ça va être horrible. Bon, ben voilà, écoutez, bonne semaine, bon 15 jours sur 48FM.
À très bientôt.
À bientôt.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.